sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman, et ce matin nous avons la chance de recevoir Jacques Henric et Catherine Wolf. Et Catherine va avoir une exposition à la rue des Beaux-Arts dans la galerie Arnaud Lefebvre, et elle est venue pour nous présenter succinctement son exposition. Bonjour Catherine, à vous.
Bonjour, bonjour Frédéric, bonjour Jacques Henric, bonjour Yves. Je vous remercie de m'accueillir dans votre émission pour présenter cette exposition qui aura lieu donc du 5 au 28 juin à la galerie Arnaud Lefebvre, comme vous l'avez dit. Et je remercie Arnaud Lefebvre de présenter mon travail. L'exposition s'intitule Fil rouge. Et quand Arnaud Lefebvre m'a proposé ce titre, j'ai tout de suite été enthousiaste. Et quand le choix de la sélection des œuvres est arrivé, j'ai été un peu plus circonspecte parce que j'ai plusieurs toiles dans lesquelles il y a un fil rouge et Arnaud Lefebvre n'en a choisi qu'un. J'étais un peu surprise et puis moi qui travaille beaucoup sur les titres, j'y reviendrai. Je me suis dit qu'il y avait forcément une intention donnée derrière ce titre. Et une fois que j'ai compris cette intention donnée derrière ce titre, j'ai trouvé le titre absolument génial parce qu'il était polysémique comme mon travail et que ce titre en englobait pas mal de facettes. Et c'est un petit peu de ça dont je vais essayer de vous parler. Un fil rouge, c'est d'abord un fil, c'est garder le fil. C'est un fil narratif. Et mon travail, c'est de la figuration narrative. Alors c'est pas du tout à la mode, je travaille depuis toujours en figuration narrative, même quand j'étais aux Beaux-Arts à l'atelier de Vladimir Ivanilikovic. Mais voilà, c'est comme ça, moi j'aime les histoires. Déjà à la base je suis historienne, et puis j'aime qu'on me raconte des histoires. Je suis une grande lectrice de romans, Jacques Henric. j'adore voir des histoires, je vais beaucoup au théâtre et d'ailleurs je fais aussi de la chronique théâtrale depuis une quinzaine d'années sur un média en ligne qui s'appelle La Dadif. Nécessairement j'aime raconter des histoires. Alors quelle est la genèse de mes histoires? Il y a deux processus assez différents. À la base du processus il y a toujours l'émotion, mais l'émotion doit être conjuguée à autre chose. Donc soit c'est l'émotion qui va être en conjonction avec un mot ou une expression, quelque chose que j'ai entendu qui me plaît et qui va d'ailleurs souvent constituer le titre de mon tableau. Ce qui est assez étonnant, en tout cas ce qui a étonné je crois Arnaud Lefebvre quand il est venu à l'atelier, que je lui ai montré mon mur de petits papiers qui sont toutes mes idées, j'en ai jusqu'à la fin de mes jours, c'est parfait. Il était assez étonné de voir que pour un artiste visuel c'était moins des crobards, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout des mots. Voilà. Et effectivement dans mon travail, souvent le titre précède l'image. En tout cas c'est une des genèses de mon travail. Si c'est pas comme ça, ça peut être plutôt une émotion toujours, mais qui va être associée cette fois à une vision, soit une vision intérieure, soit une vision extérieure. Et une petite anecdote d'ailleurs qui est très drôle, Arnaud Lefebvre a choisi deux autoportraits de moi. Et ces autoportraits illustrent bien comment ça peut fonctionner au niveau de l'image. Il se trouve que j'étais à l'école dentaire pour me faire faire une greffe osseuse en vue d'un implant. Et le chirurgien qui m'a opéré m'a, comme on dit, bien loupé. Et je suis sortie de l'hôpital avec une gueule cassée. Et dans le miroir, valait mieux pas pleurer parce que c'était un peu violent à voir. Et je me suis dit, aujourd'hui on va faire avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire ma gueule cassée. Voilà. Donc ça peut aussi naître comme ça, une image. Et je me suis follement amusée à faire ces autoportraits. Parce que quoi qu'on puisse en dire, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, il y a beaucoup d'amusement dans mon travail, du moins quand je le fais. C'est-à-dire que l'histoire que je vais inventer, l'idée, c'est pas que ça reste mon histoire, ça n'a aucun intérêt. C'est que je me distancie par rapport à cette histoire pour toucher le spectateur et l'intériorité du spectateur. Donc en fait, je me considère un peu comme une metteuse en scène. Qui va mettre un peu à distance tout ça. La toile ou le support sur lequel je vais travailler, ça va être ma scène. Et puis je vais placer des personnages, des situations, et puis je vais garder le fil. Voilà. Alors le fil, ce qui est intéressant dans ce titre de fil rouge, c'est l'adjectif rouge. puisque en fait, effectivement, dans les histoires que je raconte, je cherche une certaine intensité dramatique. Le rouge, quoi, donc. Pour obtenir cette intensité dramatique, j'ai des procédés qui sont toujours un peu les mêmes, en fait. Souvent, j'ai une représentation frontale de mes personnages, enfin de mes scènes. Et puis, mes deux matériaux de base, c'est le fusain et la gomme. Et en fait, je procède dans une espèce d'alternance d'apparition, d'effacement, ou d'effacement et d'apparition, qui va faire naître une tension. Voilà. Après, le problème, c'est que créer une toile, ça prend un petit peu du temps, quand même. Alors, j'avais oublié de dire, je l'insère ici, c'est pas grave. Ma toile, une fois que l'image est en place, elle est à peu près fixe, ça va pas beaucoup bouger. La base de l'image, elle est là. Ça va bouger éventuellement à la marge, dans un matériau que je vais pouvoir mettre, un détail que je vais mettre ou que je vais effacer, parce qu'il m'embête. Mais voilà. Donc, il y a un processus, quand même, créatif. Il faut la faire, la toile. Et je vais pas rester pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, ça peut durer trois semaines, une toile, pas au-delà, parce que sinon je ne peux plus l'avoir en peinture. Mais voilà, je ne peux pas rester dans cette émotion pendant trois semaines de suite, ce n'est pas possible, parce que, et vaut mieux pas d'ailleurs, hein, ce n'est pas souhaitable, puisque j'aime bien travailler sur le tragique. Donc, je ne vais pas être dans le tragique toute la journée. Hein. Et donc, il faut que d'une séquence à l'autre, j'arrive à retrouver l'intensité que je veux dire et l'émotion dans laquelle je suis. Et donc, pour replonger dans mon fil narratif, je vais écouter de la musique. Voilà. Et je vais écouter de la musique très très fort. Et avant de partir sur une toile, je vais choisir la musique que je vais écouter. Qu'est-ce que j'ai envie d'écouter? Qu'est-ce qui se marie bien? Enfin, qu'est-ce qui va bien exprimer l'émotion que j'ai envie de raconter? Alors, ça va être terrible parce que, en fait, une fois que j'ai bien trouvé mon disque, je vais l'écouter en boucle tout le temps de la création. Jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter le disque. Alors parfois j'essaie de changer, ça marche rarement, donc j'écoute le disque jusqu'à vraiment saturation, parce que voilà, une fois que je l'ai bien trouvé, c'est lui qui va me soutenir dans l'émotion pour retourner dans mon fil narratif. Alors quand j'ai, par exemple, quand je veux exprimer, quand c'est une toile qui est plutôt très colère, je vais mettre du rock à fond la caisse. S'il y a plutôt de la tristesse dans ma toile, sans faire de mauvais jeu de mots, malheur fonctionne très bien. C'est plutôt un temps suspendu, et en fait, il y a un temps suspendu dans mes toiles. Mes personnages, je les mets dans une situation, en fait, c'est comme s'ils étaient flashés. On ne sait pas ce qui se passe avant, on ne sait pas ce qui se passe après. C'est au spectateur d'imaginer, ça le regarde, c'est pas mon histoire. Et alors, voilà, pour ce temps suspendu, j'adore Bach, voilà. Et donc, effectivement, c'est... voilà, tous ces éléments vont faire qu'au final, il paraît que mes toiles sont très violentes. Voilà. Alors, il paraît, je l'entends bien, parce que concrètement, il m'est arrivé quand même plein d'anecdotes pas très sympas. Je me suis fait décrocher assez souvent. Pour trouver une galerie, c'est fort compliqué, et c'est pour ça que je remercie encore une fois Arnaud Lefebvre de s'engager à défendre mon travail. J'ai même une anecdote, physiquement, parfois j'ai eu peur. Une fois, j'ai exposé à Serres, un village dans les Alpes, et les organisateurs avaient attribué un lieu d'exposition à chaque artiste dans le village. Donc on était un peu éloignés les uns des autres, j'avais pas de voisins pour me protéger. Et alors, le lieu qu'on m'avait attribué, ça m'a fait mourir de rire, c'était une ancienne catéchèse. Et là, je dois dire que j'y étais un peu à la provoque, c'est-à-dire que j'ai pas fait de... Enfin, j'ai fait une sélection un peu provocatrice, ce qui n'est pas du tout ce que je cherche, au demeurant, j'en reparlerai. Et il y a un monsieur qui est parti outré, et j'ai vraiment cru que j'allais prendre le poing dans la figure. Voilà. Alors, j'entends que les gens pensent que ma peinture est violente. Moi, je ne parlerai pas de violence. Je sais que ma peinture est sans compromis, assez radicale. Elle peut être irrévérencieuse. Elle est irrévérencieuse parce que, en fait, elle parle d'un autre fil rouge, qui est le fil rouge de la féminité. Voilà. Un fil rouge, vous parliez d'une femme de fil rouge, j'ai même eu encore l'expérience hier, si vous voulez, je vous le raconte. Un fil rouge, pour une femme, c'est le corps de la femme, quoi. Hier, j'étais à une réunion pour une exposition qui aura lieu à la rentrée, qui est organisée par Myriam Chausson. Je lui ai donné donc le carton d'invitation. Elle voit le fil rouge, elle dit « Oh, ça me rappelle le temps où je mettais des tampons ». Voilà, pile poil. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, alors je ne sais pas si Arnaud Lefebvre l'a fait exprès, mais dans la majorité des toiles qu'il a choisies, en fait, je me suis rendu compte qu'il avait pris beaucoup de toiles qui racontaient les différentes étapes de la vie d'une femme. Il y a la rencontre amoureuse, il y a deux toiles sur la rencontre amoureuse, les joueurs où la mariée était en noir. Il y a deux toiles sur la maternité et ses potentiels affres, ce sont deux Pietà. Il y a une toile sur la vieillesse qui s'appelle Le jardin et des fleuris. Il y a la mort, la danse macabre. Et donc, oui, c'est. Alors, je ne défends pas la femme en tant que telle. La femme est un homme comme un autre, dirais-je. Mais le problème, c'est qu'une femme qui parle de la féminité, malgré elle, finalement, est obligée de prendre une posture féministe. Et effectivement, mon travail est assez politique et assez féministe. Encore une fois, pas pour défendre la femme. Justement, c'est pour déconstruire les stéréotypes. Les femmes, elles ne sont pas forcément sympas. Dans mes toiles, les femmes, elles ne sont pas forcément sympas du tout. Et les hommes ne sont pas forcément des affreux méchants. Je ne suis pas du tout dans ce manichéisme-là. Je suis juste en train d'essayer de dire que l'être femme est au monde et elle a le droit d'être au monde. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. Mais le problème, c'est que mes personnages, ils sont nus. Et alors là, tout de suite, en fait, le retour que j'ai, et dans la violence qu'on me reproche, on me dit que mon travail est sexuel. Il peut y avoir de la sexualité, de toute façon, ça fait partie de notre humaine nature.
Oui.
Ah, j'ai fini bientôt. Excusez-moi.
Non, mais c'est très bien, hein. Vous en sortez très très bien. Je vous réinviterai une heure pour pouvoir parler toute seule pendant une heure. Bon, vous êtes visiblement bonne à l'oral.
Pour le reste, on j'aimerais bien parler de mes romans, elle comme vous... elle parle de...
Elle est bonne, elle est très bonne.
Elle vous venez compter les 2 minutes, hein. Pour que j'ai le temps de terminer, il me reste encore deux choses, deux petits thèmes à dire. Donc effectivement, quand en fait je mets mes personnages nus, je les mets à nu. C'est ça l'idée. Et c'est la vulnérabilité des personnes, enfin de l'humain à nu, moi, qui m'intéresse. C'est l'animalité qui va s'exprimer dans cette nudité et la relation entre hommes et femmes, éventuellement, c'est ça qui m'intéresse. Et je suis assez troublée de voir qu'on est en 2025 et que ça n'a pas tellement changé depuis l'époque de Suzanne Valadon, où on avait exigé d'elle qu'elle remette une petite feuille de vigne sur les parties génitales de son Adam. Eh bien, on n'est pas si loin de ça. Et ça, c'est vrai que ça génère en moi une énorme colère. D'autant plus que le nu, encore une fois, c'est une part entière de l'histoire des arts. Et que, bizarrement, en 2025, qu'une femme fasse du nu, ça pose manifestement encore problème. Voilà. Et ça, ça me rend très colère. Et j'aime bien, justement, dans mes toiles aussi, il me reste après encore une chose, j'ai le temps... exprimer cette donner la parole aux femmes sorcières, aux femmes qui ont été aliénées, qui ont été brûlées, qui ont été incendiées, parce que elles ont voulu dire. Et à ma petite mesure, j'aime bien essayer d'inscrire les femmes dans l'histoire des arts. Et je termine juste sur l'histoire des arts, qui est mon dernier fil rouge. J'ai encore 2 minutes.
Ah,
c'est gentil. Donc effectivement, si je suis peintre, c'est que j'ai d'abord découvert la beauté de cet univers. Je trouve que c'est quand même le plus beau legs que l'humanité a fait à l'homme. Et je pratique ce que j'appelle l'échographie. Je fais des échos en graphe à la peinture de l'art. Donc ça fonctionne de différentes façons. Ça peut être une simple une citation. Ça peut être un clin d'œil, comme par exemple dans les portraits, les autoportraits que j'ai faits. J'ai fait un clin d'œil à Van Gogh. Je me suis peinte comme Van Gogh avec l'oreille coupée. Ça peut être une citation dans une des Pietà. L'arrière-plan, c'est une peinture de paysage flamand. Et ça peut être, j'ai presque fini, je vois que vous regardez l'heure. Ça peut être carrément un reversement du regard. Je vais prendre une œuvre anthologique et je vais lui donner un regard féminin.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Parce qu'encore une fois, la place des femmes dans l'histoire de l'art et le regard est forgé par la masculinité, j'y suis arrivée. Et donc j'aime bien reprendre une œuvre anthologique et lui donner un regard féminin. Voilà, et pour finir, j'ai 2 mots à terminer. Je vais me faire gronder. Ce que j'aime bien dans la peinture, c'est qu'on me dit que je suis violente, mais que finalement, par rapport à tout ce que les gens bouffent comme images pornographiques, violentes, sordides, sexuelles, etc., sur des écrans, il suffit de décaler sur un média peinture. Et là, tout d'un coup, on voit le super pouvoir de la peinture. Tout d'un coup, les gens voient ce qu'ils ne voient même plus tous les jours à force de consulter les écrans.
Merci. Donc, je vous mettrai tous les renseignements sur la page podcast pour aller voir l'exposition de cette jeune femme qui est très douée pour parler de son travail. Et maintenant, je passe la parole à Frédéric Gournay, auteur de Métaphysique du rock, qui va interviewer Jacques Henry à propos du journal intime de celui-ci qui vient d'être publié. À vous, monsieur Gournay.
Merci Yves Tanré. Oui, nous recevons Jacques Henry, écrivain, critique, essayiste, auteur du roman et le sacré de Walkman, de l'habitation des femmes et surtout de la peinture et le mal, entre autres, qui écrit pour le magazine Art Press, qui est une revue de référence dans l'art contemporain, édité avec des textes à la fois en français et en anglais, et qui existe maintenant depuis presque 50 ans. Alors, si Jacques Henry est avec nous aujourd'hui, si vous l'avez dit, c'est pour son journal intime qui paraît, qui est sous le titre Les Profanateurs, un journal qui couvre les années de 1971 à 2015, et qui raconte les engagements politiques, artistiques, littéraires, les amitiés, les amours, la vie intime et également l'intimité des autres. Bonjour Jacques Henry.
Bonjour.
Alors, vous avez eu la chance, on peut le dire, de participer à une époque un peu particulière, dans le sens où vous avez certainement été le témoin et l'acteur, du dernier mouvement d'avant-garde littéraire en France, à un moment où le cinéma connaît la nouvelle vague, la littérature connaît le nouveau roman, et la philosophie elle-même connaît la déconstruction. Donc c'est une grande période de chamboulement, de révolution, on peut le dire, et vous êtes au cœur de ce moment-là.
Voilà. C'est la chance d'avoir l'âge que j'ai, et la malchance aussi. Il faut bien comprendre que cette génération-là, dont il est question dans mon journal, elle est née avant la guerre. Il ne faut pas oublier ça. Dans tous les conflits qu'on a pu avoir et dans toutes les prises de position, quelquefois très contestables, on connaît l'épisode d'époque communiste, l'époque maoïste, et ensuite la rupture avec cette la philosophie qui soutenait tous ces mouvements-là. Ce sont des gens, moi je suis né en 38, c'est-à-dire que c'est bizarre, mes parents ils n'ont pas dû calculer leur coup parce que j'arrive moi juste au moment où la guerre commence. Et les gens dont il est question là, qui sont plus jeunes, pas Solers il est plus âgé que moi, Guyata est un peu plus jeune que moi, on a connu l'occupation, on a connu la libération, ça veut dire, et ensuite ma génération a connu aussi la guerre d'Algérie. Je dis ça parce qu'on ne peut pas comprendre notre histoire si on ne la resitue pas exactement et si on n'essaie pas de comprendre quelles ont été sans doute nos erreurs. Bon, c'est vrai, quand on a été maoïste, c'était pas très... C'était un maoïsme un peu pas très sérieux, quoi. Il y avait les vrais Mao comme Alain Badiou, ça c'était des sérieux, ou ceux qui se sont engagés après dans des mouvements qui heureusement n'ont pas abouti à des groupes terroristes. Ça, la France a été protégée, l'Italie ne l'a pas été, l'Allemagne non plus. Mais enfin, voilà.
C'était une période violente, donc il y avait la guerre d'Algérie. Il faut rappeler que c'était quand même 3 ans de service militaire pour les appeler, qui partaient en Allemagne et ensuite en Algérie. Donc c'est une période armée où il y a beaucoup de conflits. Et alors vous avez l'honnêteté de reconnaître avoir sévèrement déconné politiquement, vous assumez de coupables dérapages. Alors c'est une honnêteté qui vous honore parce que tout le monde n'a pas eu cette honnêteté.
Oui, ma différence d'ailleurs avec Philippe Soler, c'est que moi j'ai reconnu, j'ai pas fait d'autocritique. J'ai pas fait celui qui dit « Oh là là, c'est terrible ce que j'ai fait », etc. Mais il faut quand même assumer aussi ce qu'on a fait, les engagements qu'on a eus, même si c'était un peu de la rigolade, nos engagements. Il y a quand même des moments où on parlait de la Chine et tout, sans savoir très bien ce qui se passait dans ce pays-là. On l'a découvert après. Alors, à la différence de Solaire, ce qui lui dit, non, c'était très bien. On a toujours eu raison. À ce moment-là, il fallait le faire. Ben non, moi, ça fait partie un peu de nos débats que j'ai pu avoir.
Il y avait aussi des combats légitimes, parce que l'actualité nous le rappelle, mais c'était une époque aussi où il y avait une défense des droits des Palestiniens, il y avait des pro-Palestiniens, et vous montrez dans votre livre que vous, avec d'autres, vous arrivez à prouver qu'on peut être pro-Palestinien sans forcément être antisémite ou antisioniste.
Oui, alors, le début de mon journal, comme vous l'avez vu, la question est tout de suite posée, puisque c'est le moment où je rencontre Jean Genet. À l'époque, on était, les communistes en général, mais enfin, communistes dissidents déjà, on était déjà fascinés par le mouvement des Palestiniens. Le héros, c'était celui qui avait le guerrier, etc.,
le caissier,
qui se battait. Bon, c'était nos héros. Bon. Évidemment, le contact que j'ai eu avec Genet, ça, que j'admirais hein, comme écrivain, comme je l'ai fréquenté assez longtemps, puisqu'on devait faire un voyage ensemble pour faire un... c'est le début de mon journal, je devais faire un voyage avec Jean Genet qui consistait à aller dans les différents camps palestiniens du Moyen-Orient avec des écrivains que Jean Genet aimait. Alors, il y avait Derrida, il y avait Barthes, il y avait... Guyotta, je crois, il y avait Solers, puis il y avait moi. Bon. Et chacun, on devait aller visiter avec lui un camp palestinien et faire un livre sur l'état des camps. Bon. Donc on était très pro-palestinien. Bon. Mais il y a un moment où tout va basculer. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte brusquement que ce combat-là, par exemple au moment où il y a la guerre contre les Palestiniens pour les faire évacuer des pays qu'ils occupaient illégalement quand même, ils avaient été reçus mais ils les occupaient illégalement, que là ça ne marchait plus. Mais surtout, ce qui est apparu, et là moi j'ai eu des débats avec, notamment avec mes voisins, avec Denis Roche, avec Paul Thévenin qui était l'ami d'Antonin Artaud, à chaque fois qu'on me parlait de Genet, et je disais moi, je le connais bien, je l'ai fréquenté pendant des mois, Genet, il n'est pas seulement antisioniste, il est antisémite. Alors là, ça, comment tu peux dire des choses pareilles? Oui, il était... Bon, ça ne l'empêche pas d'avoir été un grand écrivain, mais il était antisémite. Alors, c'était la dénégation autour de moi. Sauf qu'un jour, on s'est aperçu qu'en effet, il y a eu les preuves qu'il était vraiment antisémite. Et... Bon, ben pour nous, ça a été vraiment... Là, on s'est dit, un truc qui ne va plus, il faut arrêter avec ça. Et donc, il y a eu une rupture, d'ailleurs, avec Jean Genet, avec Derrida aussi, parce que je crois que Derrida était dans le coup. Et au moment où nous, Solers, moi, Guyotta, nous quittions, disons, cette gauche-là et le Parti communiste, nous avons un mouvement inverse qui se produisait, c'est-à-dire que il y avait Derrida, il y avait Paul Thévenin, etc., qui, elle, hop, revenait communiste. Enfin, et donc, d'où les ruptures avec tout ça. Ça fait partie de toutes les bagarres qu'on a eues, qui étaient plus là, politiques que littéraires.
Oui. Hein. Ce qu'il faut rappeler là, ce qui est important à ce moment-là, il y a le groupe tel quel qui se constitue, et vous participez à ce groupe, donc c'est Solers, Guyotta, Marcelin Plenet, plus d'autres écrivains du moment. Et on va dire, ça va durer quoi, 10 ans? Et c'est 10 ans d'avant-garde littéraire, de vraies recherches sur le style, sur l'écriture, sur le cœur de l'écriture.
Oui, je dirais qu'à la différence des socialistes, des surréalistes. Bon, les socialistes, ça, pour moi, me branchez pas sur les socialistes parce que là, non. Je vais devenir très méchant. Non, la différence des surréalistes, c'est que les surréalistes, et c'est le cas d'Aragon, évidemment, Aragon est très présent dans mon livre,
oui, vous l'avez
dans
connu.
Mon journal, parce que je l'ai connu, je me suis fâché avec lui, enfin, mais maintenant je reconnais que c'est un des grands, quand même, parmi les surréalistes, à mon avis, c'est le plus fort. Bon, mais la différence, nous, c'est que quand on a débloqué sur le plan politique, on n'a jamais débloqué sur le plan littéraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait, par exemple, ce qu'a fait Aragon, à un moment, des poèmes pour fêter Staline ou Maurice Thorez, etc. C'est-à-dire que là, ils ont fait des choses qui, à mon avis, qu'ils n'auraient pas dû faire. Nous, si on regarde, franchement, là, objectivement, on débloquait sur le plan politique, mais sur le plan littéraire ou artistique d'ailleurs, on ne peut rien nous reprocher, parce qu'on n'a pas fait... Moi, je n'ai pas fait des poèmes pour chanter Mao Tse-Tung ou des trucs comme ça, ou les ballets chinois. Bon,
ça, c'est vrai que Soler, ça traduit du Mao Tse-Tung, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, au niveau de l'écriture, elle est restée absolument libre. Et cette liberté d'écriture était liée aussi à un moment, à une révolution sexuelle qui était très importante à cette époque-là. On est après 68. Et ce qu'on voit bien dans votre journal, c'est qu'à travers tous les errements éventuellement politiques ou les recherches avant-gardistes ou d'écriture, il y a un peu le sexe comme boussole.
Oui,
qui sert à se repérer.
C'est très bon, ça, c'est très bon, très bon, très bonne boussole. Mais non, ce qu'il faut dire quand même, c'est que tel quel, ça a été. Moi, Solers, je l'ai connu. La première fois où je l'ai rencontré, c'était en 65. Je l'ai connu pendant 60 ans, Solers, jusqu'à sa mort. Et je peux dire que dans les dernières années, c'était tous les jours qu'on se voyait. C'était incroyable. Ça a été vraiment une histoire. Bon, alors évidemment, je garde beaucoup d'admiration pour son œuvre, beaucoup d'amitié, etc. Avec quand même beaucoup de points d'interrogation sur ses positions, notamment sur la question. On aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est sa passion pour Nab, pour cet antisémite violent et ordurier. Et je n'ai jamais compris, ça c'est insistant dans mon journal. Mmh. Pourtant j'aime beaucoup Solers, mais à chaque fois je me dis, mais pourquoi jusqu'au bout il a défendu ce type, en plus c'est un écrivain très médiocre, là ça reste un point d'interrogation. Alors, moi j'ai mes idées.
On y reviendra, j'ai prévu d'en parler. On parlait de sexe. Hein. Vous écrivez « Péripéties tantôt cocasses, tantôt poignantes, vécues par des corps singuliers, des âmes très incarnées. »
Ben oui, parce que...
Mais ce n'était pas évident. Est-ce que c'est une vision... Quand nous, on regarde ces années-là, qu'on n'a pas connues, on se dit « Waouh, quelle période de liberté incroyable !» Est-ce que c'est une illusion rétrospective? Ou c'était vraiment le cas?
Ou
tout était possible?
Non, tout était possible. En plus, ce que je dis, vivant avec Catherine Millet, qui a écrit La vie sexuelle de Catherine M., qui était un succès absolument mondial, je veux dire, c'était difficile de ne pas être plongé dans cette liberté-là de l'époque.
Mais oui, mais
ça, c'était... Bon, aujourd'hui, on se dit... On a rêvé. Est-ce que ça a existé? C'était possible, ça, quand on voit aujourd'hui où on en est. Je ne vais pas... m'étendre là-dessus. Mais bon.
Il y a des très belles phrases aussi sur le désir féminin. Liberté des femmes comme toujours et les hommes que nous sommes, bon gros nounours sexuellement bien empêtrés.
Aligre FM 93.1.
Oui, parce que tout le monde croit que j'étais anti-féministe, etc. Mais pas du tout. Moi, je suis un féministe peut-être à part. C'est que je considère vraiment, je le dis, que dans le XXe siècle, sur ce terrain-là qu'est la sexualité, les écrits des femmes sont... Je parle de Catherine, mais il y en a d'autres. Il y a Colette, par exemple, ou d'autres. Elles vont beaucoup plus loin. Elles sont beaucoup moins... elles sont beaucoup plus libres. C'est ça aussi, la différence sexuelle, peut-être. Il y a quelque chose... Quand je dis qu'on est des gros nounours, c'est vrai, on a un côté... D'abord, la peur de la castration. Aïe, ça c'est un truc, ça pour un mâle, c'est important. Et donc, sur le plan littéraire, je trouve qu'on a... Moi, je dis par exemple le livre de Catherine Millet, je ne fais pas de la pub pour elle, c'est pas parce que c'est ma femme, mais je dis qu'il n'y a pas l'équivalent masculin, et je dis même que cet équivalent masculin ne peut pas exister. On ne peut pas avoir cette liberté-là.
C'est pas lié aussi au fait que la femme peut avoir un désir infini et des jouissances quasiment sans limite, alors que l'homme est plus limité dans ses capacités.
Non, vous avez raison, c'est ça aussi. Bien sûr,
il y a une infinité.
Le régime sexuel n'est pas le même.
Voilà.
Nous, il faut qu'on puisse assurer. Ouais. La femme, elle peut être disponible, même si elle Bon, je ne vais pas faire.
Vous ajoutez une belle phrase aussi. Ma conviction déjà ancienne est qu'il est un domaine où tout le monde ment, le sexe, moi compris, bien sûr. Alors, c'est quoi ce manchon sur le sexe ?
Bah, écoutez, on a toujours tendance, moi je vois par exemple, faudrait que je prenne mon exemple là, moi, comment je traite ça. Je pense, alors franchement, sans vendre ma marchandise, mais je pense que sur ce terrain-là, je vais beaucoup plus loin que Solers, par exemple. Par exemple, Solers, il a cette réputation d'être un homme de libertin. Bon, alors libertin, peut-être libertin pour un peu draguer comme ça, etc. Sur le plan sexuel, si on lit les livres de Solers, je ne sais pas si vous les avez lus, il n'y a pas grand-chose. Mmh. Il n'en parle pas. Il parle, c'est toujours un peu des trucs un peu « Oh oui, j'ai connu une jolie femme, etc. » Il a une correspondance avec sa maîtresse formidable, comment elle s'appelait
Dominique Rollin.
Bon, il y a deux volumes de correspondance amoureuse avec cette femme que j'ai bien connue aussi, qui mettait évidemment Kristeva, la femme de Solers, dans des états pas possibles, on peut comprendre. Hein. Mais il n'y a pas...
Ah, c'est très chaste.
Un poil de cul qui dépasse de sexe. Rien. Bon, le sexe, zéro. Bon. Alors, moi, je pense que c'est important quand même. Parce que Solers, il a une théorie qui, à mon avis, est bonne. Il dit, ah, mais moi, je regarde un livre, je reçois un roman, je regarde la scène sexuelle. C'est bon ou c'est pas bon? Si c'est pas bon, le livre est mauvais, je ferme. Oui, mais malheureusement, je ne veux pas être méchant, mais ça serait... On peut dire ça pour lui. Moi, si je regarde un peu de la façon dont il parle des sexes, ça ne marche pas. Alors, bon, moi, j'en sais rien, je ne vais pas juger. Je pense que, par exemple, quand même, mon dernier livre qui s'appelle « La nuit folle », où je parle beaucoup de c'est un livre que j'ai publié au Seuil qui a mal marché, je n'ai pas eu de presse. À mon avis, c'est mon meilleur livre. C'est autour du poète Joé Bousquet. Et d'ailleurs, le Art Press qui paraît là en ce moment, c'est un grand entretien avec un homme extraordinaire qui a fait une biographie de Joé Bousquet. Joé Bousquet, c'est un poète qui est très peu connu, qui est méconnu en France. Enfin, je sais pas si vous lisez beaucoup Bousquet.
Non.
Eh ben ouais. Il y a les surréalistes, il y a Éluard, il y a tous ces gens-là. À mon avis, toutes ces œuvres à côté de celle de Bousquet n'existent pas. C'est une des grandes œuvres méconnues aujourd'hui. Bon. Et moi, pour des raisons d'ailleurs, différentes raisons, j'ai été lié à. Non pas, je n'ai pas connu Bousquet, puisqu'il est mort bien. C'était dans les années 50. Vous savez, c'est cet homme qui a été blessé à la fin de la guerre, vers 1918. Dans les derniers mois de la guerre, il est blessé. Par une balle qui lui touche la colonne vertébrale, et cet homme donc devient impuissant sexuellement et paralysé. Et cet homme, sur lequel il va y avoir, je vous le dis parce que ça va paraître, 3 volumes de 500 pages sur sa biographie, il a passé sa vie couché dans une petite chambre à Carcassonne, parce que, bon, et puis là, il y avait tout Paris qui venait, il y avait... Paulan, Gide, Valérie, donc ça prouve que c'était vraiment un personnage important, qui venait le visiter. Mais lui, il était dans... Et il va y avoir une biographie de 3 fois 500 pages, parce que tout ce qui a été dit sur sa biographie, c'est là où on voit quand même que les biographes ont mal fait leur travail. Tout est faux, ce qui a été dit sur Bousquet. Bon. Alors là, la sexualité, chez Bousquet, ça joue un rôle aussi très important. Il était impuissant et néanmoins... beaucoup de choses de sa biographie touchent au sexe, et de façon très importante. Et donc c'est un homme impuissant. Bah, peut-être qu'il était moins gêné que nous pour parler de ça.
Alors, bon, sur Solaire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a des pages de romans où il a des scènes d'amour avec sa femme, Julia Kristeva, qui est sous un pseudonyme. Il a aussi des romans basés avec ses relations avec ses maîtresses, où il fait des kilomètres pour... de nuit en voiture, rejoindre sa maîtresse qui a imaginé un scénario. Donc, je trouve qu'on pourrait trouver pas mal de pages où il parle de sexe, et il en parle plutôt bien. Alors, vous livrez sans fausse pudeur les détails de votre intimité, hein, de votre vie sexuelle très libre, comme votre compagne Catherine Millet, ce qui est toujours salvateur en période d'hypocrisie puritaniste, qui revient étrangement. Mais pourquoi livrer dans votre journal l'intimité des autres, la sexualité des autres, leur vie privée? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit à garder ça secret?
Écoutez, je vais vous dire, moi, quand j'ai eu des aventures féminines, les jeunes femmes qui... souvent, je le dis, c'est pas tellement moi qui les draguais, je le dis. Bah, peut-être que ce qui jouait quand même, c'est qu'on était connus un peu, on écrivait des livres. Bon, donc, les jeunes femmes qui venaient et qui se sont... qui ont connu ma vie, qui ont, y ont participé, elles auraient dû savoir que quand on est avec un écrivain, il faut faire attention. Si on ne veut pas avoir de vie privée qui soit mise au jour, alors on va faire, je sais pas, on trouve un charcutier, ou, etc., mais pas un écrivain. Un écrivain, voilà, c'est comme ça. C'est,
oui, mais là, vous livrez, alors, vous livrez l'intimité des gens avec leur nom et des gens connus. C'est ça la différence.
Alors, je livre les noms quand c'est vraiment que je sais que ces jeunes femmes sont, au contraire, elles sont très contentes, certaines, que je parle d'elles. Il y en a d'autres sûrement, mais les autres, je mets que les initiales. Et, bon, mais la vie. Qu'est-ce que je peux dire? Bien sûr que je peux me dire, mais c'est pas bien. Je touche à la, à, disons,
à la vie privée.
À la vie privée. Mmh. Oui.
Alors c'est pas seulement la sexualité. Moi, c'est l'autre chose qui m'a dérangé.
Je prends les précautions.
C'est l'autre chose qui m'a dérangé aussi, c'est que vous livrez aussi de l'intimité de la santé des gens. On est au courant des hémorroïdes des uns, du cancer de l'anus de l'autre, des problèmes de dentier, des obsessions scatologiques de gens connus que je ne vais pas citer parce que je ne vais pas relayer ce que vous avez fait. Mais est-ce que ça pose pas problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dessus sur le fait de livrer l'intimité au niveau de leur santé?
Moi, le journal, vous comprenez ce que mon projet, c'était pas de parler de ces auteurs qui sont maintenant des personnages un peu sacres, pas sacrés, mais ben voilà, Guyotta, Soler, c'est vraiment bon, bien. Moi, je veux vous montrer que ces gens qui ont fait ces livres, qu'on admire, eh bien, c'était des hommes, c'est-à-dire des humains, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les défauts, ils étaient lâches, ils pouvaient être méchants, ils pouvaient... Je voulais montrer l'humanité de ces gens-là. Et je pense que montrer l'humanité de ces gens-là, dont les scènes que vous évoquez, c'est déjà montrer déjà un lien avec leur œuvre. Bon, si ces gens vivaient avec des gros problèmes, il y a quelqu'un qui est, à mon avis, le plus important dans les gens dont je parle, c'est Guyotta pour moi. Hein. C'est le plus fort littérairement, etc. Bon, je parle de... Il y a des scènes assez rigolotes avec des histoires de tapioca que je raconte sur Guyotta. Alors évidemment, je peux vous dire que là, tous les amis de Solers, ceux qui vivent encore, eux sont morts. C'est silence radio. Il n'y en a pas un qui vient me dire, mais ou alors il pourrait m'attaquer, me dire, mais attendez, c'est pas...
Alors, dans le cas du Guyotta, en plus, il n'en a pas fait secret dans son œuvre, dans son œuvre,
Raconté, comment il se masturbait, comment... Voilà. Alors, je trouve ça normal, et puis ce garçon aussi, d'ailleurs.
Mais vous voulez montrer l'humanité de ces grands hommes, soi-disant, mais vous connaissez sans doute la phrase de Goethe, on prétend qu'il n'y a pas de héros en face de son valet de chambre. C'est qu'un héros ne peut être compris que par des héros et que les valets de chambre ne savent apprécier que leur pareil.
Oui, mais l'ennui, c'est que moi, je ne suis pas un valet de chambre. Je suis dans le coup. C'est-à-dire que je suis d'égal à égal avec ces gens-là. Je ne suis pas le valet qui regarde par le trou de la serrure. C'est montagne, il y a des passages de montagne aussi là-dessus. Bon.
Oui, c'est tiré de montagne, déjà.
Je n'ai aucune culpabilité d'avoir parlé de ces gens comme j'en parle. Et je dis simplement que si demain... Parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que ces gens, comme Soler, et même Pierre Guyotta et d'autres, ils ont parlé d'eux. Ils ont fait des autobiographies. Mais elles sont bidons, souvent. Elles sont bidons. C'est-à-dire que... Bon, alors, dans un roman, OK, on peut dire, mais c'est un roman. Mais quand qu'ils passent directement à l'autobiographie, ce qui est le cas, quand même, dans le cas de Guyotta, mais lui, il dit ce qu'il a à dire, on peut leur dire, écoutez, voilà, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Enfin, bon, voilà. Je suis pas un dresseur de tort, hein, Alors, je sais même pas pourquoi j'ai fait journal, en fait.
Oui, alors, c'est la question du journal, en fait. La question qui se pose sur le journal, c'est qu'a priori, quand c'est écrit, c'est pas fait pour être édité. Hein. Et c'est censé éventuellement être édité après la mort des gens,
ou à la mort de l'auteur. Mais c'est toute la question du journal, parce que nous on apprécie les journaux d'écrivains, c'est très précieux. Je ne connais pas un auteur dont on aime le travail, on a tout de suite envie d'aller voir son journal, savoir comment il vit, comment il écrit, comment il crée.
Moi je suis très...
Bien sûr, on est tous friands de ça. Mais souvent, c'est des années après leur mort que ça paraît. Là, on assiste parfois, que ce soit avec Nab, avec Zach Dansky, ou des gens comme ça, qui sont peu élevés d'un point de vue moral, qui n'ont pas de grandeur d'âme, ils écrivent directement leur journal pour le publier très vite. C'est ça le problème chez eux.
Bon, moi, dès la préface de mon journal, je dis exactement les choses. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi j'ai écrit journal. Je n'ai pas pensé à la postérité du tout, et je n'aime pas penser à un truc qui serait publié. Je dis dès le début, c'est l'histoire avec Jean Genet. C'est parce qu'il y a eu une soirée avec Jean Genet, Paul Thévenin me dit, vous allez partir avec Jean Genet, et voilà. Et pourquoi, justement, un jour, j'aurais pu le tenir 10 ans avant, moi, ce journal. Je note, voilà, Jean Genet. Et puis après, c'est parti. Si j'avais voulu... Que ce journal soit même publié, j'aurais fait ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire que je n'aurais pas écrit des milliers de pages sur du mauvais papier, avec une mauvaise encre, avec une écriture. Quand on a voulu transcrire mon journal, mes notes, l'IMEC, qui est un peu l'équivalent de Bibliothèque Nationale, m'avait dit, on va le faire, quelqu'un va le faire. Et le type de l'IMEC qui est passé, je lui ai dit, regarde, tu arrives à lire? Ah, il me dit, non, c'est illisible. Ben, j'ai dit, mon vieux, moi, j'arrive même plus à lire. Et ce que je dis dans le début, c'est que j'ai passé 2 ans avec une loupe, quelquefois, pour... Alors, si j'avais voulu publier ce journal... Je me serais pris autrement. Alors, il y a des gens, moi, j'ai un ami qui fait un journal qui est beaucoup plus littéraire, qui est très beau d'ailleurs, mais c'est impeccable. Et lui, il fait tout ce qu'il faut pour que le journal soit publié. Moi, ce n'était pas mon cas. Il se trouve que, voilà, je l'ai fait comme ça, et puis donc, je l'ai livré comme ça. Il faut dire, je dis, problème d'édition, c'est un miracle que ce livre soit publié. C'est un miracle. Normalement, j'aurais pas pu le publier s'il n'y avait pas eu des rencontres. Des fois, vous parliez de galeriste. Bon, ben moi, ça a été un éditeur. Voilà. Voilà. Et avec lui qui pouvait publier, c'est une amie qui m'a dit, c'est peut-être à lui qu'il faut... Ce monsieur dirige maintenant des éditions Plon, c'est paru chez Plon. Je ne pouvais plus... Parce que tous ces écrivains dont je parle, c'était des gens qui ont tous publié au Seuil et chez Gallimard. Donc, il n'était pas possible que mon journal paraisse chez un autre éditeur qui n'ont rien à foutre de nos histoires. Donc, ça pouvait être Le Seuil. Le Seuil, j'étais en bagarre avec eux très violemment, notamment avec le type qui dirige la collection Fiction et compagnie, avec qui je me suis fâché. Donc, puis j'en avais marre du Seuil. Il y avait l'extrême gauche qui était là, tout ça. Alors là, pour moi, c'était... Il fallait que je me barre de ça. Et puis, Gallimard. Il y a une amie qui a travaillé chez Gallimard qui me dit, mais... Elle était d'ailleurs, c'est elle qui dirigeait Gallimard à un moment, je ne vais pas donner son nom là. Elle me dit, mais je vais le donner à Antoine Gallimard. Je lui dis, écoute, s'il te plaît, c'est absurde, parce que si tu le donnes à Gallimard, je suis obligé de couper la moitié de mon journal. Parce que alors, sur Gallimard, j'en mets un paquet. Ouais, hein, bon.
Sur Gallimard,
c'est
alors,
elle m'a dit, je vais essayer. Je dis, si ça t'amuse. Alors, elle est allée voir Antoine Gallimard. Est-ce que tu ne veux pas publier le livre de ce journal Jacques-Henri alors Antoine Gallimard. Tu sais, je suis âgé. Je suis fatigué et je ne veux pas voir tous les matins des demandes de rectification, éventuellement des demandes aussi d'avocats, etc. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, tu vois, si il avait dit oui, il fallait que je coupe tout. Donc, je passe sur les deux maisons d'édition qui auraient pu être les miennes et il a fallu que j'en trouve une troisième par le hasard et ça a été plein. Voilà.
Alors heureusement, dans votre livre, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'intimité des autres, il n'y a pas que des gens connus dans leurs aspects triviaux au quotidien. Il y a surtout l'aventure d'Art Press avec Catherine Millet. Ouais. Alors on l'oublie souvent, à la fin des années 80, entre les années 80 et 90, donc ce journal défend l'art contemporain, du presque 30 ans. Et on a l'impression que ce combat n'est jamais gagné, parce que ça a été attaqué par la Nouvelle Droite, notamment par des gens comme Jean Clerc, Alain de Benoît, Fumaroli, mais aussi Baudrillard. Donc ça a été... c'est jamais acquis, c'est jamais gagné, en fait, la liberté de création.
Non. Il faut dire que moi, j'avais une position un peu bizarre dans ce journal, parce que moi, j'ai fait un livre qui s'appelait « La peinture et le mal », qui était un livre assez polémique, qui était une réflexion sur l'idée du mal. Je reprenais un peu les histoires de bataille, mais en peinture. Et moi, j'étais, pour les gens d'avant-garde, et Catherine Millet compris, j'étais un réactionnaire. Parce que moi, j'ai attaqué violemment ce qu'on appelait l'art contemporain, violemment même la peinture surréaliste. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait de mieux, mais en même temps, et pour défendre une peinture, moi, je défendais la peinture où il y avait des images et tout ce qui était abstrait, tout ça, c'était pas mon truc, quoi. Alors, quand Catherine travaillait sur Yves Klein, quand on déjeunait, elle était là avec son truc sur les... Moi, à Art Press, j'étais pas dans le coup, moi, du point de vue artistique. Hein. Cela dit, je faisais ce que je voulais, bien sûr, mais j'étais un sale réac. Parce que je défendais la peinture figurative, moi j'aimais bien les images, etc. Bon, mais...
Non, mais quand il y a eu ces attaques-là de Alain de Benoît, de Baudrillard, vous avez choisi votre camp.
Ah bah, oui, mais là ça jouait sur des trucs graves, là, très graves quand même. Alain de Benoît, c'était quand même le néo-nazi. Il est toujours là. Hein. Ouais. Et Libération, d'ailleurs, il n'y avait pas si longtemps, faisait un entretien avec Alain de Benoît comme si c'était un personnage très, très respectable. C'était vraiment des gens d'extrême droite. Là, il y a beaucoup de pages de bagarres avec ces gens-là.
Ouais, ouais.
Vous écoutez Allègre FM 93.1.
Donc, on l'a dit, vous avez vécu la fin de la Révolution, en tout cas, l'espèce de désenchantement. Sont arrivés le cynisme des années 80, le nihilisme des années 90, et là on assiste à un retour d'ordre moral terrible. Comment voyez ça avec le recul ?
Comme vous savez, c'est même avec des gens de ma génération, on dit mais c'était inimaginable ce qu'on est aujourd'hui. C'est inimaginable.
Ce retour en arrière.
Non, mais parce qu'il y a le puritanisme, il y a tout ça, mais il y a aussi des gens qui sont tués. Je veux dire tués, pas forcément physiquement, mais qui ne peuvent plus. Des cinéastes qui ne peuvent plus faire des films. Il n'y a pas longtemps, on recevait à dîner, je ne sais pas si vous voyez, qui était Philippe Cobert.
Oui, bien sûr. Ouais. Homme de théâtre.
Formidable.
Qui était capable de venir 3 heures seul sur scène, formidable, à jouer 50 personnages.
Formidable. Oui, maintenant, Philippe Cobert, il est tué. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus travailler. Et il y en a plein comme ça. Doyon, tous ces gens-là, ils ne peuvent plus travailler. On les a tués, ces gens.
Et pourtant, vous avez aussi connu, on a parlé du féminisme, vous avez connu cette lutte des femmes dans les années 60, et vous y avez participé d'une certaine manière avec Catherine Millet, en éditant des livres de femmes et en défendant la sexualité des femmes, le désir des femmes,
l'idée des
femmes.
Numéros spéciaux.
Voilà, c'est ça.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et donc, vous voyez un parallèle, à un moment, vous dites, il y a un virement stalinien dans le féminisme.
C'est stalinien, c'est des gardes rouges. Hein,
les nouveaux chiens de garde.
C'est effrayant. Ouais. Et vous savez, Catherine, par exemple, elle est interdite, elle ne peut pas entrer à l'école des beaux-arts. Elle était invitée il y a peu de temps à faire un entretien dans une école des beaux-arts, je crois que c'était, je ne sais plus quelle grande capitale, à Montpellier. Il y a eu une pétition qui a été faite pour qu'elle ne puisse pas venir. Ils font des travaux de policiers, hein. C'est-à-dire que tous nos engagements, et surtout les engagements de Catherine, la défense, encore récemment parce qu'on avait signé pour défendre Depardieu ou des trucs. Tout était noté. Et alors, des affiches dans l'école des Beaux-Arts, et Catherine interdite de faire. Voilà la situation. Là.
Alors,
On s'en fout, mais...
Non, mais c'est intéressant de faire un parallèle comment un mouvement d'émancipation absolument légitime peut se retourner contre lui-même.
Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. La Révolution française, on a connu ça. Hein.
Parce qu'il
y a eu 89, puis il y a eu 93, et puis la guillotine. Ouais. Non, mais c'est un phénomène, hélas, fréquent. Hein.
Alors, il y a aussi ce qui apparaît dans votre livre et qui est beau, c'est votre histoire d'amour avec Catherine Millet. Donc, une vie partagée dans la création, dans l'amour. Et puis, il y a aussi deux personnages qui reviennent très souvent, qui sont des figures majeures en dehors de votre femme, c'est Philippe Soler, c'est Pierre Guyotat. J'ai l'impression que c'est les deux personnes qui ont le plus compté pour vous.
Bah écoutez, c'est ceux que j'ai pendant 60 ans. Vous vous rendez compte, 60 ans.
Et donc vous disiez Pierre Guyotat, pour vous, c'était le plus fort.
Ouais.
Au niveau de l'écriture.
Oui. Ouais, ouais.
Le plus radical.
Il écrase.
Et même quand il crée sa langue, il crée sa propre langue. Vous le suivez ou pas ?
Non, c'est compliqué. Mais moi, là aussi, je n'étais pas d'accord avec Solers, parce que quand Pierre Guyata a fait ce qu'il appelait les livres en langue, c'est-à-dire ces livres, il faut bien dire, illisibles, franchement.
Y a moi, je les ai lus. Hein.
Vraiment ?
Oui, vraiment.
Prostitution ?
Oui, tout ça, oui.
Bravo,
oui.
Bravo. Bon, un bon point. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Une fois, c'est...
Il faut les lire à haute voix, sinon
oui,
ça ne marche pas.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, allez, bon... Solers, tout de suite, il a attaqué bêtement.
Il l'a accusé de formalisme, grosso modo.
Oui, mais c'était con, ça. Ouais. C'était très con. Moi, je lui ai dit à Solers, écoutez, d'accord, c'est difficile, il s'en moquait, hein, souvent. En fait, il l'aimait bien, Guyata, il s'aimait bien, mais voilà. Mais il y avait des égos, quand même. Hein.
Ah, oui, c'est ça.
Et puis ces égos, ils étaient... Vous savez, dans les bagarres, vous avez les gens autour qui poussent. Ah ouais, tu sais, ah non, bon, et ça donne des brouilles violentes. Bon, moi, j'avais dit à Solers, il faut le laisser. C'est une expérience pour lui, cette écriture là, que vous dites ne pas comprendre ou dont vous vous moquez. C'est parce qu'il a besoin de le faire. Et il reviendra aussi avec des grands textes. C'est ce qui s'est passé,
d'ailleurs. Avec Coma, Vivre...
Oh, Coma, c'est formidable. Ah, oui. Bien sûr.
Qui ont très bien marché, qui ont eu des prix, ça vendait bien.
Très bien marché, bien sûr. Et puis, vous savez, là, je parlais de ça récemment avec un ami architecte qui venait de lire Guyata. La musique, la connaissance de la musique et la connaissance de l'histoire, c'est incroyable. On lui a fait faire des cours. Dans une université à des étudiantes de l'étranger sur la littérature française. Il improvisait, il avait quelques notes. Si vous lisez le volume de ses cours, mais c'est incroyable, incroyable la connaissance. Mmh. Toute la poésie du Moyen-Âge, il connaissait ça par cœur. Il avait une connaissance, et pareil pour la musique, et pareil pour l'histoire. Moi, je l'ai vu discuter avec des historiens, et c'était lui qui connaissait. Non, il est exceptionnel. Hein. Bon, voilà.
J'ai l'impression que dans votre livre, dans votre journal, ce qui ressort, c'est que l'amour pour Catherine, l'amitié pour les artistes et les auteurs, l'emporte toujours sur les infidélités. Les infidélités, pardon, qu'elles soient sexuelles ou esthétiques.
Ouais, vous savez, bon, puisqu'on parle de mes liens avec Catherine, elle a fait La vie sexuelle de Catherine M, mais elle a fait aussi un autre livre qui s'appelle où elle raconte toute sa jalousie. Ça a été 2 ans d'enfer. Et dans mon journal, moi, j'en parle aussi.
Oui, vous en parlez très clairement.
Alors, c'était impensable, cette femme qui a vu cette vie sexuelle et qui venait m'emmerder parce que j'avais 2-3 histoires avec des femmes. Je lui dis, mais Catherine, mais c'est un sens. Mais ça, la jalousie, il faut relire Proust, c'est impossible. Impossible. Moi, j'ai souvent dit, franchement, quand on voit les grands couples de l'histoire, je ne vais pas me comparer ni à ceux de Sartre, Beauvoir, ou Aragon, Elsa Triolet, je pense que le couple qu'on a fait, enfin qui existe encore, avec nos vies sexuelles, et l'amour néanmoins qui a toujours été là, c'est quand même, je crois, un peu exceptionnel. Parce que si on regarde comment fonctionnait Sartre, Beauvoir, ou je ne sais pas, Camus avec l'actrice de cinéma, j'oublie son nom,
Maria Cazares,
ou Aragon, Elsa Triolet, enfin les poèmes d'amour, etc. Je veux dire que nous, c'est quand même un peu exceptionnel, je dois dire, franchement. Et ça a tenu le coup au milieu de, quand même, des fois, de moments
très... Et en amitié, c'est pareil, un peu, il y a des artistes avec lesquels vous fâchez, et finalement, vous disiez, on l'aime bien, finalement, Catherine et moi. Vous répétez ça 2-3 fois sur 2-3 personnes, et on voulait...
C'est vrai, ils aiment bien. Même Muret, qui nous a craché pendant des flots de merde, je garde, moi, ce qui était bien chez les gens.
Puis alors, vous terminez votre journal par des figures plutôt positives de cathos guerriers, de prêtres lettrés et engagés, par vous-même jouant le confesseur de Louis XIV dans le film de Albert Serra, face à Jean-Pierre Léo.
J'ai passé pendant plusieurs semaines à tourner avec Jean-Pierre Léo. Ah oui, oui. D'ailleurs, je crois que mon journal se termine là-dessus.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est plutôt des figures positives du catholicisme, entre guillemets. Est-ce que chasser le naturel mystique, il revient en galop, ou le sacré prend la porte, mais il revient par la fenêtre?
De toute façon, le sacré, il sera toujours là. On peut faire tout ce qu'on veut. Ça prend dans plusieurs formes. Des religions traditionnelles, ou alors des... Mais je crois que l'humain ne peut pas s'en passer.
Merci beaucoup Jacques-Henri d'être venu pour parler de
l'émission. Je voudrais juste dire que Gide et Léoto publiaient leur journal de leur vivant et c'était très violent par rapport à leurs contemporains. Donc en ce sens-là, votre journal est très juste et vous avez bien fait de le publier maintenant. Et je vous en remercie, il nous apprend beaucoup de choses. Et moi qui suis un grand fan des journaux, il est juste sur le... sur son appréhension du réel. Il ne s'agit pas de faire la morale ou je ne sais pas quoi. Non, c'est juste, on raconte des choses anecdotiques et c'est ça qu'on aime bien. C'est quand Léoto, il dit du mal de ce qui se passe au Mercure de France, on aime bien ça. Et quand même, Apollinaire lui dit la chanson du mal-aimé. Et on aime bien aussi, et c'est formidable. Merci d'être venu à vous deux.
Et merci à Lucas Penture et à René, derrière la vitre.
Merci de votre accueil.
Ben voilà.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.